Je vous invite à écouter la lecture d'aujourd'hui qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les 11 premiers versets.
Matthieu 21. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphabée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Ôtez à la population, dites à la population de Sion, regarde ton roi, vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. » répondaient les gens.
L'entrée de Jésus à Jérusalem est une scène connue, tellement connue qu'elle donne l'impression fausse, évidemment, que l'ensemble de l'épisode n'a plus grand-chose à nous apprendre. On sait tout de la première étape à la dernière. Cette scène semble tellement bien réglée, d'ailleurs, qu'on la croirait préparée d'avance, comme une pièce de théâtre qui a été jouée plusieurs fois. L'entrée à Jérusalem est une sorte de procession royale, mais d'un genre particulier. Un roi d'un genre particulier lui aussi, d'un autre type, entre dans la ville qui l'acclame, mais comme son royaume n'est pas de ce monde, il l'a suffisamment dit, les acclamations enthousiastes se changeront bientôt en cris de fureur. Ça ne mettra pas longtemps. Il n'est pas bon de décevoir certaines attentes. Nous savons aussi que ce récit est précédé d'un certain nombre de paraboles dont le contenu a certainement bousculé, chamboulé de nombreuses certitudes de ceux qui les entendaient. Les paraboles du royaume, notamment, puisqu'il est question d'un roi. Les paraboles du royaume, en particulier, ont accentué le malentendu entre Jésus et les autorités politiques et religieuses, juives ou romaines, dans tous les cas. Pour Jésus, il était question d'un règne, c'est-à-dire de l'exercice d'une autorité, spirituelle en l'occurrence, et non pas d'un royaume, c'est-à-dire d'un territoire à posséder et à contrôler. Malgré les précautions oratoires de Jésus, la confusion restera jusqu'au bout. Jésus est et restera un concurrent à éliminer, quelle que soit la nature de son programme ou de son utopie. Il est de trop. Comme dans les westerns où il y a toujours quelqu'un qui dit « il y a deux shérifs de trop dans le comté ». Mais il y a la suite aussi. Les marchands du temple, la parabole du figuier desséché, tous ces moments critiques qui suivent notre passage et où les pouvoirs sont dénoncés frontalement. C'est quand on les relit qu'on se dit qu'il l'a peut-être un peu cherché. De son côté, Jésus verra aussi sa propre autorité qui est incontestable chez ceux qui le suivent, qui l'apprécient, qui l'écoutent. Cette autorité incontestable va tout de même et rapidement affronter une haine farouche. On le sait, le dialogue n'aura pas lieu. Il sera vite remplacé par une lutte à mort. Il n'est pas bon de décevoir certaines attentes, mais il est encore plus dangereux de contester toutes sortes de formes de pouvoir. Jésus est ici dans la même position que le jeune roi David, ou du moins le jeune David avant qu'il soit couronné roi, recruté par le prophète Samuel, bientôt couronné, et sommé de monter sur un trône déjà occupé par Saül. Vous avez d'un côté la légitimité spirituelle d'un usurpateur et de l'autre la légalité des autorités en place. Eh bien, l'usurpateur Jésus devra affronter rapidement et durement la légalité des autorités en place. Voilà pourquoi l'entrée de Jésus dans Jérusalem est une petite oasis de popularité, d'acclamation, de hourra, perdu dans une immense hostilité, une haine omniprésente qui a précédé et suivi ce moment de grâce provisoire. Cet enchaînement est sans doute voulu par les auteurs de ce texte, la tradition qu'on appelle Matthieu, et parce qu'il a été voulu, il est donc significatif. On ne met pas des détails ou un ordonnancement particulier d'un texte sans intention, sans raison. La paix et la concorde ne sont peut-être qu'un état exceptionnel, une sorte de suspension momentanée de l'hostilité ambiante. C'est peut-être ce qu'il faut déduire, en partie au moins, de ce texte. La thèse est connue, vous le savez bien, la guerre n'est pas l'interruption malheureuse d'une paix naturelle, c'est plutôt la paix qui suspend provisoirement une hostilité quasi permanente et qui n'est que l'état normal des sociétés humaines. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le voir, même si ça ne fait pas plaisir, mais vous le savez bien, les idées inconfortables ne sont pas fausses pour autant. Un philosophe contemporain, Frédéric Schifter, écrivait il y a quelques années « Nous savons bien que la société n'est qu'un vaste orphelinat dans lequel les pensionnaires essaient en pure perte de s'adopter entre eux. Bon, » c'est assez cruel, mais c'est assez vrai. Ça reflète bien, hélas, l'histoire humaine remplie d'exemples tragiques qui démontrent notre incapacité à atteindre une paix un peu plus longue qu'un cessez-le-feu. Société, nation, empire, famille, tribu, clan, église même. Nos regroupements ne sont au mieux que des armistices. Il faut garder cette idée en mémoire parce que c'est sans doute une des pointes du texte du jour. Jésus a beau être acclamé par cette foule ce jour-là, il est peut-être bien, déjà, aussi seul qu'il le sera bientôt sur le mont Golgotha. Mais notre histoire du jour contient aussi des symboles importants. Il n'y a pas que cette solitude au milieu d'une foule, ce qui est banal finalement. Il y a aussi ce mouvement de la foule. Il dit quand même quelque chose. Cet accueil triomphal qui a été provoqué par Jésus, puisqu'on nous en détaille les préparatifs, c'est lui qui l'a voulu, cette entrée. C'est lui qui est à l'initiative de ce mouvement. La foule représente les invités à la fête. Jésus et les disciples tiennent le rôle de l'hôte, celui qui interrompt l'hostilité ambiante pour mieux rassembler autour d'une paix possible, d'une convivialité ouverte sur un partage, une manière de régner peut-être déjà, mais qui ne ressemble pas du tout aux méthodes des autres. Matthieu offre ici une sorte de parodie d'un texte bien connu de Zacharie, en Zacharie 9, pour les pointilleux, et qui annonce la venue d'un sauveur, juché sur une ânesse et accompagné de son petit. Eh oui, ce n'est pas la première fois, c'est déjà un plagiat, c'est déjà une copie ou une redite. Il y a un autre symbole ici que la foule rassemblée ne comprend pas, ou plutôt qu'elle interprète à son avantage. La modestie du protocole aurait bien dû les alerter et contraster fortement avec les attentes démesurées de cette foule qui attend, à travers le personnage du Messie, un nouveau David qui montera sur le trône en chassant ceux qui l'occupent à ce moment-là. Il y a toujours quelqu'un à chasser, finalement. Nous savons bien que le parallèle est juste entre Zacharie et les évangiles, mais nous savons aussi que Jésus a toujours refusé de jouer ce rôle-là. Quant au rôle de l'ânon, le petit âne, qui semble complètement inutile ici, puisque c'est sa mère qui est la bête de somme. Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, et oui, des rayonnages, certainement entiers, sur le petit âne, qui n'est pas le même que celui de la crèche. Ça, c'est une information. On a l'impression que Matthieu prend un malin plaisir à le mettre en scène malgré son incompétence, parce qu'il ne sert à rien, il ne fait que suivre. On a presque l'impression qu'il le met en scène en raison même de son incompétence, parce qu'il ne sert à rien et qu'il ne fait que suivre. Il n'a pas les qualités requises pour accueillir le Messie. Sa véritable mission au milieu de nous, il ne la comprend pas. À quoi sert-il ? Il se contente de marcher à côté, d'être un peu à côté de la plaque, comme nous, qui, des siècles après cette scène, essayons toujours, aujourd'hui encore, de comprendre ce que ce Jésus est venu faire au milieu de nous. Nous qui aussi essayons tous les jours de faire un peu le tri dans nos propres malentendus. Alors si jamais on vous traite un jour de bourrique, ne le prenez pas en mauvaise part, ne le prenez pas mal. Répondez seulement que cet animal, ce doux animal, docile en général, n'est pas le symbole de l'entêtement et de la bêtise, mais qu'il est plutôt un modèle de ténacité, un être solide, patient, qui cherche à comprendre et qui pour cela est prêt à suivre celui qui sait aussi longtemps que ses jambes le porteront. C'est mieux de le voir sous cet angle-là, non ? La comparaison devient possible, presque tentante. En tout cas, la déclaration « Le Seigneur en a besoin » ne vient pas à la fin, elle est présente dès le début, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une conclusion, c'est un préalable, comme si notre inutilité était un état normal, mais appelé à être interrompu régulièrement par ce moment où nous sommes enfin utiles, actifs, dans ce que Jésus appelle le royaume, c'est-à-dire cette manière de vivre qui ne ressemble pas toujours, pas en tout point, à celle des autres, et qui fait même de la résistance en refusant de perpétuer certaines violences qu'il ne s'agit plus seulement de constater, mais aussi de combattre, en tout cas les plus flagrantes. C'est probablement parce que les autorités en place ont très très bien compris ce que Jésus venait faire au milieu d'eux, la nature de son projet, que leur hostilité, d'abord discrète, va se déchaîner dans les jours qui suivent, au point de provoquer sa perte. C'est à ce projet de détournement de la marche ordinairement violente du monde que nous sommes appelés, nous aussi. Et c'est pour cela que notre propre marche est si difficile sur ce genre de chemin, de sentier. Rendre gloire à Dieu, puisque c'est l'expression qui dit tout notre programme, ça n'est pas très bavard ni très détaillé. Rendre gloire à Dieu, eh bien, c'est permettre à des oasis de concorde même provisoire de voir le jour. Il faut toute la ténacité d'une bourrique pour y arriver, au moins de temps en temps. À la fin du récit, Jésus, qui n'en est pas à sa première brutalité verbale, douche l'enthousiasme des participants à la fête en leur faisant comprendre qu'ils s'y prennent assez mal. Il ne nous est pas demandé autre chose qu'une glorification. C'en est presque décevant. Il faut bien comprendre ce terme, il ne s'agit pas d'une simple proclamation creuse, rendre gloire, envoyer quelque chose comme ça en l'air vers le ciel, sans obligation, sans effort de notre part. Ce n'est pas ça glorifier. Glorifier, c'est rendre concrète, palpable, la puissance effective d'un absent. Cela nous met dans le rôle d'un plénipotentiaire qui ne parle pas en son nom, mais annonce le règne ou la puissance de quelqu'un d'autre. Cet envoyé est parfois celui qui prend les coups, comme les prophètes, comme un ambassadeur convoqué par un chef d'État qui lui intime de faire ses valises dès le lendemain matin parce qu'il n'est plus persona grata dans le pays. Le pouvoir, toujours. Dans tout ce que nous ferons pour déranger ou bousculer un peu à notre mesure, avec nos moyens, même modestes, l'hostilité naturelle du monde, un monde que nous ne changerons pas fondamentalement, mais qui viendra toujours à nous avec sa violence, ni la beauté du lieu, ni la richesse apparente, ni les fastes du protocole ne seront efficaces pour le royaume promis, qui nous est promis. Ce sera notre patience de bourrique, appliquée, patiente, à suivre le maître, sans toujours comprendre sa vocation ni son utilité, la sienne comme la nôtre d'ailleurs. Que fait-il là? Que faisons-nous là? Ce sera toujours problématique, et d'un côté, et de l'autre. Et donc il faudra toujours se poser la question. Ce sera toujours cette suivance tenace qui fera de nos églises des laboratoires de paix provisoires, des oasis momentanées, d'une concorde fragile. Chesterton écrivait « Être bon représente une aventure autrement violente et osée que de faire le tour du monde à la voile. » C'est ce que semble comprendre le petit âne patient, la petite bourrique qui suit. Il est appliqué, tenace, et il sait bien, et nous devrions bien nous aussi savoir que nous n'avons pas d'autre manière de rendre gloire à Dieu que d'être bon, dans un monde où ce n'est pas toujours un avantage, et encore moins une sinécure. Amen.